Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Diane Harvey de l'AQRP. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale. Notre collaboratrice Catherine Stassin est des nôtres, son sujet, être bien au travail et l'importance de l'employeur. On commence en chanson avec Que tous dansent de Noé Préchoff. Bienvenue à Folie douce.
Me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste, et je peux lire dans tes yeux. Tu te souviens pourquoi on se voit peu, t'avais oublié, ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin. Je bois de l'eau, j'ai pas de scoop, et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Je dois longtemps, longtemps aimer des amours mortes et enterrées, nous voir encore tout le temps partout et m'inventer des rendez-vous. Je dois longtemps ne pas comprendre pourquoi personne n'a su se rendre et prendre l'autre dans ses bras pour écouter ce qui ne sort pas, et à faire sauter les miroirs, à m'en faire péter la mémoire. Je sais, on dirait pas comme ça, il me faut rire, rire de moi. Il me faut des lettres anonymes qui m'accusent de tous les crimes, et au matin de ma vie m'être fait beaucoup d'ennemis. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute. Il me faut explorer mon époque et tout ce qu'elle provoque. Contempler mes contemporains qui subliment leur chagrin, mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent, même la honte qui monte, même l'absence, que tous dansent. Que tous dansent. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance. Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence.
Vous êtes branché sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
J'accueille maintenant mon invité, Diane Harvey, directrice générale de l'AQRP. Bonjour Diane et bienvenue à Folie douce.
Oui, bonjour.
Alors, l'AQRP au long, c'est l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, une organisation qui existe depuis longtemps. Si on commençait, on a beaucoup de choses à parler, mais si on commençait par situer ce que c'est l'AQRP, comment on peut définir?
Oui. Vous avez dit, Yvan, que c'était une organisation qui existe depuis longtemps.
Oui.
Je préciserais, là, depuis plus de 30 ans.
Oui.
Alors, la QRP est née dans les années 90, au moment où il y avait énormément là, de services axés sur les soins, mais très peu sur la réadaptation psychosociale. Donc, tout ce qui entoure, je vous dirais, le quotidien de la personne, l'emploi, l'hébergement, tout le volet citoyen, si je peux dire, là, de la santé mentale.
C'est ça. Alors, que ça signifie, en fait, réadaptation psychosociale, ça couvre tous les un peu toutes les facettes, là.
Oui, effectivement. Là, ça vient compléter, si je peux dire, la gamme de services axée sur les soins, le traitement.
Ouais.
Alors, la QRP a finalement pour mission, là, comment je vous dirais ça, notre mission ultime, finalement, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent ou qui ont vécu avec un trouble de santé mentale et celle des membres de l'entourage. Et pour améliorer cette qualité de vie, on s'est donné pour mission de promouvoir les meilleures pratiques en matière de réadaptation psychosociale. Et la réadaptation psychosociale a toujours prôné le rétablissement et la citoyenneté des personnes concernées par les enjeux de santé mentale. Donc, par la promotion des meilleures pratiques, on a développé là, un éventail de services pour soutenir là, différentes initiatives en lien avec la réadaptation.
Oui. Et c'est une organisation assez grande quand même qui couvre pas mal de territoires. Vous avez quand même une assez grande équipe aussi, je crois.
Avec le temps, naturellement, l'équipe a grossi. On a une posture provinciale. On est vraiment un organisme. On est qualifié, si je peux dire, d'organisation nationale de services, donc une posture provinciale. C'est sûr que, quand je suis arrivée là, dans les premières années, autour de 2000, c'était une petite équipe. Ce qui a permis un gros virage, j'oserais dire, de la QRP, c'est toute l'intégration et la reconnaissance des savoirs d'expérience. C'est la volonté aussi d'agir comme un employeur exemplaire en santé mentale. C'est-à-dire qu'on va favoriser à compétences égales les personnes qui ont un savoir d'expérience parce qu'on voit ça comme l'ajout d'une expertise spécifique, si je peux dire.
Et on se dit, si vous faites pas ça, ben c'est certainement moins le milieu dit privé qui va le faire. Fait qu'à quelque part, vous devez donner l'exemple aussi. C'est une bonne initiative, là.
Oui, c'est ça. On connaît le concept d'employeur exemplaire en santé, offrir du conditionnement physique, etc. Alors, nous, on essaie de s'inscrire dans la notion d'employeur exemplaire en santé mentale. Puis de donner l'exemple, puis de pas être en porte-à-faux avec le discours qu'on porte, si je peux dire.
Oui. Vous êtes là depuis plusieurs années, vous disiez... on a dit qu'on allait se tutoyer, fait que on va continuer avec le tutoiement. Donc, Diane, Parfait. Tu dis que ça fait longtemps que tu es là, effectivement, puis c'est intéressant d'avoir une stabilité tout ça. Comment tu as vu, en fait, le milieu de la santé mentale évoluer? Est-ce que tu trouves que quand même ça s'améliore avec les dernières années? Comment tu peux qu'est-ce que tu peux en conclure, finalement?
Bien, c'est sûr qu'il y a une amélioration continue, là, je vous dirais, pour l'ensemble des services, là, qu'on soit dans le soin ou dans la réadaptation. C'est sûr que dans les années 90, je vous dirais, la cause semblait plus sexy parce qu'on levait le drapeau à l'effet qu'il faut ce type de service-là si on veut vraiment favoriser le rétablissement des personnes puis leur intégration dans la communauté. Fait que j'ai vu, dans ces années-là, là, de 90 à aujourd'hui, vraiment l'émergence de plusieurs types de services, là, comme je disais, reliés à l'hébergement, à l'emploi, aux loisirs, sous l'angle que les personnes qui vivent des enjeux de santé mentale doivent avoir accès aux mêmes services, mais pouvoir utiliser aussi les mêmes lieux communs que n'importe qui. Donc, c'est sûr que si on regarde les avancées en réadaptation, on a fait un énorme chemin. Puis, je vous dirais le chemin aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est le chemin justement de cette reconnaissance du savoir d'expérience des personnes qui ont vécu, qui sont capables d'en faire une expertise et de l'ajouter, donc de venir bonifier notre offre de service. Pour moi, là, c'est vraiment le virage le plus important des dernières années à la QRP.
Quand on parle de mettre son expérience à profit, est-ce qu'on parle de pair aidance?
Bien, ça peut être en pair aidance, mais ça peut être en différents niveaux. La pair aidance, bien, c'est sûr que c'est une illustration là très claire de la reconnaissance et de l'intégration des savoirs d'expérience. Parce que là, on va parler d'intervention par les pairs, donc d'une personne qui a un savoir d'expérience, qui a un vécu, qui a pris du recul, qui s'est rétabli et qui veut aider son père. Donc, quelqu'un, une autre personne qui vit avec des enjeux de santé mentale. Donc, il va vraiment travailler à partir de son vécu, de l'enseignement qu'il a tiré de cette expérience de vie. On parle beaucoup du témoignage à l'enseignement. du vécu à l'expertise. Fait que là, on est vraiment là, dans une trame directe là, de reconnaissance, mais il faut aller encore plus loin. On a des objectifs en termes de société là, d'améliorer les soins en santé mentale. Alors, pour nous, c'est logique de prendre le temps d'écouter les gens, de tenir compte de leur point de vue. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui ont des enjeux de santé mentale, ils ont une connaissance de l'intérieur de nos services. Alors que souvent, nous, comme professionnels, on n'a pas ce vécu-là, on a une connaissance extérieure de nos services. Alors, on aurait tout avantage à entendre le point de vue des personnes utilisatrices, autant au niveau de comment ils veulent, quels sont leurs besoins, quels traitements, quels soins, quelle aide elles veulent, ces personnes-là, ouais. Autant on aurait profit à les écouter au plan de la transformation de nos services. Si on veut que nos services répondent mieux à leurs besoins, alors, il faut bien les écouter.
Donc il y a place à amélioration, en fait, dans les milieux hospitaliers puis dans le milieu de soins. J'imagine que c'est pas encore le cas. On n'a pas tant d'interventions ou de ce qu'on dit, le input des gens qui ont vécu les problématiques de santé mentale?
Bien, on l'a de plus en plus, là. Comme vous disiez, là, avec l'intervention par les pairs, mais il y a aussi toute l'arrivée là, du modèle de patient partenaire, là, où la personne doit être considérée comme un membre à part entière dans l'équipe de soins parce qu'elle a une expertise spécifique à partager. Fait qu'on commence à voir vraiment là, différentes déclinaisons de ce savoir d'expérience-là. Au-delà de l'intervention, au-delà de son propre plan de soins, si je peux dire, mais dans une perspective, là, vraiment une vision à plus long terme quant à l'amélioration de l'ensemble des services, hein, parce qu'on a tous un bout de chemin à faire dans ce sens-là. Là.
Diane Harvey, donc directrice générale de la QRP, un des moments phares de l'association, c'est de tenir un colloque. Est-ce que c'est aux années ou aux 2 ans?
On le fait là, dans les dernières années aux 2 ans parce que c'était devenu trop gros, si je peux dire.
Ouais.
Naturellement, on a fait un arrêt pendant la pandémie. Alors, 2024, là, c'est un anniversaire, un 20e colloque, ça se souligne grandement. Et c'est vraiment aussi, il s'inscrit aussi en lien avec, les réflexions que tous les citoyens ont pu faire en regard de la santé mentale. La pandémie aura eu ça de bon, au moins, de mettre en lumière les enjeux de santé mentale chez la jeunesse, mais chez l'ensemble de la population. Et ça nous demande de revoir un peu notre vision par rapport à la santé mentale, de sortir un peu, de décloisonner juste aux enjeux, là, si je pourrais dire, de troubles ou de maladies, mais de voir comment cette santé mentale-là peut être affectée dans différents domaines. Quels sont les impacts de la santé mentale? Bon, que ce soit, par exemple, les enjeux entre l'environnement et la santé mentale, les enjeux entre le développement rapide de l'intelligence artificielle et de la santé mentale. Qu'est-ce qu'on fait avec la réalité du docteur Google? C'est quand même des nouveaux éléments qu'on doit tenir en compte. Donc, avoir une vision large.
À ce que je me souviens, on avait participé, nous, comme à l'émission Folie douce, au colloque, je crois, de 2010, qui avait été fait à Montréal, puis je crois que vous aviez quand même des invités de marques internationaux. Alors, tu sais, c'est des colloques quand même assez à grand déploiement, je pense.
Oui. Je veux pas avoir l'air trop... pas assez humble, je vous dirais, mais je suis pas mal certaine que au plan francophone canadien, on est le plus gros événement en santé mentale. Dans les meilleures années, avant certaines réformes de la santé là, qui ont pu impacter le colloque, on parlait d'événements là, qui rassemblaient autour de 900 à 1000 personnes. Je me rappelle de 2010 avec Folie douce au Reine-Élisabeth.
Ouais, ouais.
On était dans ces eaux-là, là, 900 personnes. Ouais. Et avec l'aide des différents du réseau public, on était capable d'aller chercher, de soutenir environ, 20% de ces 900 personnes-là étaient des personnes directement concernées par des enjeux de santé mentale. Donc, ça en est un autre exemple de comment on peut reconnaître ce savoir d'expérience-là, mais pas juste le reconnaître dans le discours, mais de l'intégrer dans nos pratiques.
Et aussi, le colloque permet de un peu tout le monde de s'informer, de se mettre un peu à jour, de peut-être s'inspirer. Tu sais, je me souviens, en 2010, c'était ça, là. Il y avait des gens qui venaient d'ailleurs, d'Angleterre, tout ça, puis des fois, on a des pratiques ailleurs qui peuvent inspirer les gens d'ici, puis vice-versa. Là. Fait que ça a du bon aussi pour en tant que colloque.
Oui, effectivement. On essaie là, de se rallier des... des milieux qui sont en avance sur le Québec, tout comme on reçoit des milieux sur lesquels nous, on a de l'avance. Donc, c'est vraiment là, effectivement là, un échange. Avec le temps, le colloque est devenu plus qu'un, comment je dirais, qu'une activité de transfert de connaissances. C'est devenu vraiment une activité de mise en réseau. Et j'aime beaucoup le terme « happening ». Moi, je trouve que c'est un « happening », le colloque de la QRP. Parce qu'il y a un côté festif, il y a un côté créatif, il y a un côté vraiment de rassemblement, d'échange. C'est un des rares événements où on va avoir des gens de toutes les régions. Oui, on va avoir des gens de l'international, mais on a une belle couverture aussi au Québec. Et les gens s'attendent à ce rendez-vous-là aux deux ans pour pouvoir justement développer là, des réseaux de contacts, apprendre des initiatives des autres, partager leur propre expertise. Donc, pour moi, là, c'est, le mot « happening », je voudrais que c'est le mot qui définit le mieux le colloque de la QRP.
Ça représente bien. Il reste quelques secondes, à peu près une minute. Diane, pour l'avenir de la QRP, comment tu vois la suite? Est-ce que tu as des plans? Est-ce que c'est un peu la continuité? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent?
Bien, c'est sûr que nous, là, on a des beaux grands défis, ne serait-ce que tout le développement des pratiques en pair aidance. On a eu la confirmation de notre mandat et de notre expertise à quelque part dans ce champ d'action-là. Donc, poursuivre le développement de la pair aidance adulte. Il y a quand même maintenant au Québec là, près de 200 personnes qui ont vécu des enjeux de santé mentale, qui se sont rétablies et qui travaillent à l'intérieur de notre réseau de soins, tant public que communautaire. Donc, poursuivre cette lancée-là et développer en parallèle, et ça, on l'a commencé depuis quelques années, la pair aidance famille, donc d'un membre de l'entourage vers un autre membre de l'entourage. Et tout récemment, on nous a confié le défi de développer la pair aidance jeunesse. Qui va nécessiter vraiment, là, je vous dirais, une vision globale de la jeunesse, un désir de travailler avec une multitude d'acteurs qui touchent à la jeunesse pour que ce savoir d'expérience-là des jeunes soit disponible à d'autres jeunes qui pourraient en profiter.
C'est excellent. Non, c'est excellent. En terminant, Diane, comment on peut faire pour en savoir plus sur la QRP? Quel est votre site web, peut-être?
Le site est en construction, donc on invite, là, vous allez le voir évoluer là, tout au cours de l'année 2024. Ouais. C'est sûr que c'est le meilleur moyen, c'est d'aller visiter le site et de découvrir ces nombreux projets. Parce que oui, on a parlé de colloques, mais mon Dieu, j'aurais pu rester une heure avec vous pour vous parler des bibliothèques vivantes, pour vous parler de l'intégration au travail, des nouvelles formations qu'on offre. C'est un puits sans fond.
Oui, on va aller voir ça. On cherche à QRP. Merci beaucoup, Diane Harvey, directrice générale de l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, et bonne de continuation.
Merci beaucoup, Yvan.
Merci.
Bonne continuation à Folie Douce.
Au revoir.
Et je vous espère avec nous.
Oui, merci. À la prochaine.
Bye.
Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir.
Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale.
Oui, c'est tiré d'un article que j'ai trouvé sur Internet. En fait, j'aurai trois articles aujourd'hui. Et le premier article que j'ai choisi, bien, ça s'appelle exactement comme ça. Ça s'appelle « L'impact des jeux vidéo sur la santé mentale », parce qu'il y en a vraiment un.
Il faut voir s'il est bon ou mauvais, oui. Ou est bon et mauvais.
Oui, je m'attendais à avoir toutes sortes de mauvais côtés. Tu sais, on parle souvent de la violence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence dans les jeux vidéo.
L'addiction aussi, souvent, là, pour les jeux vidéo, c'est ça?
Mais on voit dans cet article qu'il y en a des bons côtés.
OK.
Oui, oui. Alors, c'est un article que j'ai pris sur le site neuromedia.ca. On nous dit dans cet article, il existe de nombreuses idées fausses sur les jeux vidéo et leur impact sur la santé mentale. La vérité est que les jeux vidéo présentent de nombreux avantages, notamment le développement des compétences complexes en matière de résolution de problèmes et la promotion de l'interaction sociale par le biais des jeux en ligne. Les jeux vidéo ou du casino peuvent être un excellent moyen de stimuler votre esprit et d'améliorer votre santé mentale à condition de ne pas y recourir avec compulsivité. Ils présentent de nombreux avantages et peuvent vous aider à soulager le stress. En voici quelques-uns. Premièrement, il y a la stimulation mentale. Les jeux vidéo vous font souvent réfléchir. Lorsque vous y jouez, de nombreuses régions de votre cerveau s'excitent pour vous aider à atteindre un niveau de réflexion plus élevé. Selon la complexité du jeu, vous pouvez être amené à réfléchir, à élaborer des stratégies et à analyser rapidement. Jouer à des jeux vidéo fait travailler des parties plus profondes de votre cerveau qui améliorent le développement et la pensée critique. Deuxièmement, le sentiment d'accomplissement. Dans le jeu, vous avez des buts et des objectifs à atteindre. Une fois que vous les avez atteints, ils vous apportent beaucoup de satisfaction, ce qui améliore votre bien-être général. Ce sentiment d'accomplissement est renforcé lorsque vous jouez à des jeux qui vous donnent des trophées ou des badges après avoir atteint des objectifs.
Tout le monde aime ça, les récompenses, hein? Que ce soit les médailles.
Moi, je n'ai jamais remporté de prix, mais je peux dire que quand je jouais à des jeux et que je finissais par gagner une étape, par exemple,
c'est valorisant.
Particulièrement très difficile, ben, j'étais content.
Ouais.
Parce que ça demande de la persévérance.
Ouais, ça demande la concentration, mais une certaine adresse. Là, on devient meilleur en pratiquant, évidemment.
Oui. Et troisièmement, il y a le rétablissement de la santé mentale. Quel que soit le type de jeu, il peut contribuer à la guérison d'un traumatisme. Les jeux vidéo peuvent servir de distraction à la douleur et au traumatisme psychologique. Ils peuvent également aider les personnes qui souffrent de troubles mentaux, tels que l'anxiété, la dépression, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelle dans le langage commun le TDAH, et le syndrome de stress post-traumatique.
C'est peut-être un peu, des fois, un exutoire. T'sais, on oublie nos problèmes, on déconnecte, on pense juste aux jeux, puis ça fait du bien.
Là. Oui, puis c'est vrai que les jeux qu'on aime beaucoup, puis qui demandent, qui offrent beaucoup de challenges, on oublie tout.
On oublie tout, on ne voit même pas le temps passer.
Non,
c'est ça qui est le danger, d'ailleurs.
C'est vrai.
Pour certains.
Oui, on nous dit dans l'article, les jeux vidéo ont été associés à une amélioration de l'humeur et à des bienfaits pour la santé mentale. Il peut sembler naturel de penser que les jeux violents, comme les jeux de tir à la première personne, ne sont pas bons. Cependant, tous les jeux vidéo peuvent être bénéfiques pour différentes raisons.
Ça peut défouler, entre autres. Je veux dire, au lieu de faire mal à quelqu'un, ça fait pas mal au personnage de le tuer.
Non, c'est vrai, oui. Surtout quand t'es de mauvaise humeur.
Ça peut défouler, ça peut sortir de l'agressivité. Là.
Exactement. Ouais. Tu tires sur quelqu'un.
Ben oui, c'est ça.
Ou tu tires sur un dinosaure, par exemple.
Des fois, c'est très violent, là, mais je dis, ça reste que c'est un jeu. Là, quand on comprend que c'est ça, c'est...
Oui. On nous dit dans l'article, les jeux de rôle et autres jeux stratégiques peuvent aider à renforcer les capacités de résolution de problèmes. Il existe peu de recherches indiquant que les jeux vidéo violents sont mauvais pour la santé mentale. En effet, presque tous les jeux qui encouragent la prise de décision et la pensée critique sont bénéfiques pour votre santé mentale. Si les jeux vidéo en eux-mêmes ne sont pas mauvais pour la santé mentale, en devenir dépendant peut l'être. Passer trop de temps à jouer peut mener à l'isolement. Il se peut aussi que vous n'ayez pas envie de fréquenter des gens dans le monde réel. Lorsque vous commencez à sentir que vous utilisez les jeux vidéo pour vous évader, vous devez alors ralentir le rythme. Rendez l'heure du jeu plus amusante en jouant avec des amis. Il existe des communautés en ligne que vous pouvez rejoindre pour vos jeux préférés. Un temps de jeu modéré avec des amis peut aider à la socialisation, à la relaxation et à la gestion de stress. Ces jeux vidéo cessent d'être bénéfiques lorsque vous y jouez de manière excessive. Plus de 10 heures par semaine sont considérées comme excessives. Dans ce cas, vous pouvez, par exemple, avoir des sentiments anxieux, être incapable de dormir, ne pas vouloir participer à des activités sociales. Un autre signe troublant est l'utilisation de jeux vidéo pour échapper à la vie réelle. Ce type de comportement peut conduire à une dépendance qui entraîne ensuite d'autres comportements négatifs. Trop de jeux peut devenir un problème, mais avec modération, ils peuvent être très bénéfiques. Moi, je me rappelle qu'il y avait un jeu aussi qui était très addictif. En tout cas, pour moi, c'est un jeu de Star Wars.
Ah, oui.
Il y avait eu trois jeux, c'est comme il y avait eu trois films à l'époque. Des fois, je fermais les yeux la nuit, puis je voyais encore les personnages. Okay. Tu sais, j'avais encore des flashs.
C'est très prenant, effectivement. Ouais. Mais on va poursuivre plus tard à l'émission sur le même sujet. C'est très intéressant. Merci, Pierre.
Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
On y va maintenant avec la chronique de Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvon.
Alors bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous parles d'être bien au travail et l'importance de l'employeur pour que les gens soient bien finalement au travail.
Voilà, l'employeur
a un rôle à jouer, là, c'est ça?
Il a un rôle important à jouer pour le bien-être mental et physique.
Et c'est pas une dépense, c'est ça. C'est, je pense que les gens ont évolué, mais autrefois, tu sais, j'ai l'impression que l'employeur voulait en faire le moins possible, mais on se rend compte aujourd'hui qu'un employé heureux, c'est un employé qui va mieux travailler, qui va être plus constant, moins absent. Il va rester plus longtemps que la compagnie, peut-être toujours. Donc, c'est un investissement.
Ben voilà, hein? Tu donnes déjà toutes mes réponses.
Ah, ben,
c'est
désolé,
très bien.
Ben, c'est une belle chronique, merci.
C'est très bien, en fait.
Non, ça m'intéresse, ce sujet-là.
Ben, t'as tout compris, c'est ça, en fait. C'est sûr que même si on n'est pas dans un esprit purement mercantile ici, ouais, c'est certain que soigner son employé, c'est bien pour l'employé et c'est bien pour l'entreprise aussi, on ne va pas se le cacher. Hein. Toutes les entreprises ne bichonnent pas leurs employés uniquement pour ce plaisir-là. Oui, ils respectent la santé, la sécurité souvent.
Ouais.
Mais maintenant,
il y a des lois de toute façon aussi.
Ah, c'est ça. Depuis 2022, il y a une loi qui est passée au Québec et qui fait qu'en fait, le risque psychosocial des employés au travail est inscrit dans la loi. Donc, l'employeur se doit de faire attention à ces risques, et non seulement d'y faire attention, mais de les identifier et de corriger ces,
ouais,
risques.
Et c'est gagnant, là. Je pense que les employeurs comprennent ça, la plupart, là, tu sais. Fait que c'est une bonne nouvelle pour les employés. Et
c'est
pour
extrêmement gagnant.
C'est des milieux de vie, là. Tu sais, c'est pas le travail, on n'est pas des numéros qui s'en vont travailler. Puis, tu sais, on vit là, là. C'est un milieu de vie.
On vit là, comme tu dis, on passe beaucoup de temps, ouais, là. Quand on y réfléchit sur une semaine, c'est quand même 5 jours sur 7.
Les collègues, c'est presque des nouvelles familles. Puis,
Oui. Et puis, alors là, c'est sûr que comme tu parlais des enjeux principaux qui vont être un petit peu décuplés, c'est la motivation qui va augmenter, le stress et l'anxiété qui va baisser idéalement quand l'employeur a réussi son, ouais, coup. L'employé va aussi être plus productif, mais ce n'est pas juste la productivité, je pense, que l'employeur doit viser, parce que ça va être automatique, j'ai l'impression, chez un employé qui est bien.
Ouais.
Et puis aussi, ça va diminuer l'absentéisme. Hein. Parce que ça peut être très problématique. Quand on n'est pas bien au boulot, la moindre petite chose qui nous arrive, ben, on n'a pas trop envie d'y aller.
J'ai l'impression que certains employés vont éviter même de changer d'emploi, même s'ils auraient un meilleur salaire ailleurs, s'ils sont bien à l'employeur où ils sont. Tu sais, je pense que les gens veulent d'abord ça avant même d'avoir des conditions...
Je pense que, en tout cas, il y a une génération maintenant qui
plus,
agit de cette manière-là.
Ouais, ouais, la génération peut-être Z, là, ou
Mais c'est intéressant qu'ils pensent comme ça, je trouve, parce que ils ont raison de penser à leur santé mentale et pas qu'à la santé physique. Tiens, est-ce qu'il fait chaud ou froid au boulot, ou est-ce que je suis bien payé ou pas. Il faut qu'il y ait cette envie, que les collègues soient sympas, que l'ambiance soit bonne.
Ils ont compris que c'est un milieu de vie. Tu sais. Ils ont compris que c'est beau le boulot, mais ça reste un milieu où on veut se sentir bien. Puis on veut.
On peut terminer la chronique. Je crois que tu as tout compris.
Non, mais c'est bon. En même temps, tu me passes comme un genre d'examen.
Ben oui, tout à fait.
Mais je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là. J'ai jamais travaillé dans les ressources humaines, mais ça m'a toujours intéressé, le bien-être des employés. Je trouve que c'est quelque chose qui me plaît. Là.
Ben, ça plaît. Et puis, ce sont des pratiques que les employés peuvent essayer de faire instaurer. En tout cas, les employeurs ont le devoir de faire. Et on parle beaucoup de santé et sécurité, mais ce qui est important aussi, c'est de donner un sens au travail où on est. Et bien, comment on donne un sens? C'est-à-dire que on va proposer une certaine organisation du travail qui donne un sens à l'employé, qu'il a l'impression de se développer, qu'il apprend des choses, qu'il évolue dans son poste ou qu'il évolue à travers d'autres postes. Donc, donner ce sens au travail et aussi se consulter. Hein, donc, aller consulter les employés, aller consulter les gestionnaires qui sont en contact avec les employés, faire évoluer les politiques de personnel. Ça, c'est intéressant. Et cultiver les bonnes relations. Donc, ne pas attendre qu'il y ait un problème pour agir. Essayer de faire en sorte qu'il y ait une gestion des tensions à l'avance, si je puis me permettre de dire ça comme ça. C'est-à-dire que faire comprendre aux employés qu'il y a des outils et qu'il y a des personnes disponibles pour eux s'ils sentent que le conflit est en train de naître.
Ouais.
Comme un nouvel employé qui arrive quelque part, il ne veut pas marcher trop sur les plates-bandes des autres, donc il fait attention, etc. Mais il ne sait pas trop comment faire. Il peut aller voir la personne en ressources humaines, dire « bon ben... voilà, qu'est-ce que je fais avec cet employé qui est là depuis 20 ans, mais je ne peux pas faire exactement comme il fait lui, là, parce que ce n'est pas comme ça que ça peut marcher pour le mieux, etc. Mmh. » Donc, on peut aller chercher des conseils et c'est l'employeur qui doit proposer ça, qui doit dire à l'employé, écoutez, ça existe, on va trouver des solutions avant qu'il y ait des gros conflits.
Ils doivent prendre les devants, en fait, les patrons doivent prendre les devants puis informer les employés qu'est-ce qui est disponible.
Voilà, c'est le devoir du patron, comme l'employé, il doit venir au boulot le matin.
Oui, c'est ça. Chacun sa responsabilité. Mais c'est une bonne nouvelle, je trouve, parce que, tu sais, il y a tellement eu de souffrance au travail, des gens qui n'aimaient pas leur travail puis ils enduraient, mais je trouve qu'on s'en va dans la bonne voie. Là,
je pense, oui, il y a encore des jobs très mécaniques, très durs physiquement. On va voir un petit peu comment ça s'en va avec tout ce qui est robotique, mais ça, c'est une autre question.
Ouais.
Maintenant, on va aller vers des choses plus rigolotes qui peuvent être des meilleures pratiques au travail. C'est par exemple aménager une salle de détente. C'est quelque chose qui doit être vu comme pour mieux ancrer les employés, donc les fidéliser, mais ils vont interagir à cette salle de détente avec leurs collègues. Et toute cette interaction, ça va bénéficier à l'entreprise.
Et ça va peut-être même pousser certaines personnes à s'informer. Tu sais, on parlait dans d'autres chroniques de dire, y a-t-il un problème? Est-ce que ça va d'être plus attentif, attentif à son entourage, en fait? Parce que si on voit
à
quelqu'un...
À ne pas travailler en silo, parce qu'on va dire, mais tu travailles pour un tel, dans tel service, mais tu fais ça comme ça, on n'est pas au courant. Alors qu'on joue, en fait, un jeu de fléchettes, ou bien qu'on discute, ou qu'on joue un jeu de cartes sur... moi, je me rappelle que quand il y avait une finale de foot, on se dit en même temps regarder la télé et le soccer, du foot. On regardait, j'ai échangé avec plein de gens, j'ai rencontré plein de gens de l'endroit où je travaillais, alors qu'en fait, moi, le foot ne m'intéressait pas tant que ça. Mais pour finir, c'était tellement sympa comme ambiance. Et on échangeait et on créait des liens, comme tu dis. On évacue surtout le stress. C'était un tribunal international, donc il y avait beaucoup de stress, en effet. C'est des enjeux importants, donc ça nous permettait de vider ce stress et même de lier des liens d'amitié. Ce que je trouve le plus chouette, c'est les entreprises qui donnent des endroits de micro-siestes. Donc, c'est des siestes qui vont de 5 à 20 minutes, un quart d'heure, où on peut recharger ses batteries et puis on repart l'après-midi aussi frais qu'on est arrivé le matin. Il faut voir ça comme quelque chose de positif et pas pour de la glandouille organisée. Non, la micro-sieste est quelque chose de positif. Je crois que c'est en train de faire son chemin, c'est pas partout. Hein?
Non, mais, surtout des fois c'est des entreprises, c'est peut-être plus avant-gardistes. Ou, c'est pas nécessairement les entreprises traditionnelles qui font ça, peut-être que ça arrive. Là, mais...
Peut-être. Bon. Moi j'ai vécu ça, j'ai connu ça chez IBM il y a 15 ans, plus de 15 ans.
Encore, on parlait à ce moment-là on parlait des nouvelles technologies. Tu sais, moi, j'ai connu ce genre de choses-là aussi dans des boîtes de, plus de marketing
tech.
Des choses comme ça, là, de web. Là. Mm. Mais c'est ça, mais j'espère que ça va se répandre parce que toutes les entreprises ont intérêt à avoir ça pour leurs
et
employés.
Et sentent que c'est bénéfique, en fait.
Hein? Oui, c'est ça, exactement. Toujours le bien-être des employés, je pense qu'il faut trouver la bonne formule, là, la bonne, selon le type d'entreprise, mais c'est toujours gagnant. Mm.
Parce qu'on peut avoir un petit coup de en après-midi, et puis du coup on va plus dire, oh, il faut que je termine ma journée comme vraiment, comme si on
prend un café, on se booste un petit peu parce que c'est dur là, des fois.
Alors que là, une micro-sieste et hop, c'est reparti. Alors les horaires flexibles, conciliation travail-famille, ça c'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup de résultats en matière de bien-être au travail.
Et je rajouterais, tu sais, que travail-famille, mais je rajouterais même proche aidant. Tu sais, comme dans le sens, il y a toujours le côté de dire des parents de jeunes enfants qui ont de la conciliation à faire, mais il y a aussi des gens qui s'occupent, par exemple, de personnes, soit leurs parents ou des gens qui ont besoin, tu sais, un proche aidant.
Tu as raison. D'ailleurs, on devrait dire conciliation travail-vie personnelle.
Ouais.
Parce que dans le fond, ce n'est pas que la famille. On peut être proche aidant d'un ami, on peut être proche aidant de quelqu'un qui est de famille éloignée, ou vraiment on peut être proche aidant de disons qu'on peut décliner cette formule.
Et ça enlève un stress
c'est
énorme.
Une bonne remarque,
ça. Mais ça enlève un stress énorme. La personne qui doit quitter pour une raison X importante, là, se sent toujours un peu mal à l'aise parce qu'elle se dit comment je vais être vue par les autres, les patrons, tout ça. Quand c'est clair, puis de dire écoute, quand il y a des raisons importantes, ben allez-y, puis on va comprendre. Puis je pense que la personne, ça enlève une tonne de stress. Là.
Oui, c'est intéressant. Et puis quelqu'un qui est ouvert dans une situation comme ça aussi, s'il dit ben, écoute, j'arrive à telle heure, je fais mes heures et je pars.
Ouais.
Pas parce que je ne veux pas rester une minute de plus, c'est parce que je ne peux pas rester une minute de plus. Et que c'est comme ça, c'est pas que j'ai l'esprit entre guillemets purement fonctionnaire, hein,
non,
on va dire ça avec délicatesse. Hein. Alors, on peut parler aussi des choses plus amusantes qui bâtissent un petit peu les relations entre les employés. Et ça donne beaucoup de bénéfices sur justement casser des silos dans les entreprises et faire que ça fonctionne de manière plus facile et constructive, c'est tout ce qu'on appelle team building.
Ouais.
Et alors, bon, je ne sais pas s'il y a un mot francophone d'ailleurs pour ça, les activités d'équipe d'entreprise, je ne sais pas comment on peut dire ça.
Moi, ça ne me vient pas, mais effectivement, je pense qu'il y a un mot.
Bon, ben, ça renforce les liens, ça peut être sympa. Ça peut être aussi bien des choses qui se font bon, en général en dehors des heures, malheureusement, parce que moi, je trouve qu'on peut trouver du temps sur des heures. Ça peut être du sport, ça peut être des sorties culturelles, ça peut être des jeux dans le bâtiment même, des jeux de piste ou des jeux d'orientation, etc.
Des fois, on a des lacs à l'épaule là, où les gens quittent, puis ça peut être bénéfique pour l'entreprise aussi, là, à l'occasion. À l'extérieur du bureau, des fois, même à la campagne ou ailleurs. Là, c'est...
Oui, intéressant, c'est sûr que ça, c'est encore un autre budget, mais c'est intéressant.
Ouais.
Et alors, je voudrais terminer sur le rôle qui est vraiment intéressant. C'est ce qu'on pourrait appeler en français le responsable du bien-être. Et en anglais, on dit « Chief Happiness Officer ». Donc, c'est vraiment une personne qui va s'assurer du bien-être et mettre les activités en place, mettre l'écoute en place, être certain que l'information passe.
Ça existe, cette fonction-là.
Ça existe déjà dans certaines entreprises.
Je vais appliquer, j'aime ça.
Vas-y.
J'aime ça.
Ben, tu peux postuler, d'ailleurs, j'allais dire. Les qualités pour ces personnes, il faut des personnes avenantes, enthousiastes, créatives, à l'écoute, solutions judicieuses, adaptées, etc. Il y a des descriptions, tu pourrais aller voir.
Ah oui,
c'est très sympa comme... comme rôle, je trouve en effet, et que les entreprises réalisent qu'elles peuvent se doter d'un tel employé qui va encadrer les autres et qui va se soucier du bien-être, c'est vraiment quelque chose de très positif.
C'est un bon investissement pour la qualité de bien-être de ses employés.
Voilà. Alors, il y a d'autres, je mettrai en ligne beaucoup d'autres façons d'assurer son bien-être, enfin que l'employeur assure le bien-être des employés en ligne. Et je veux juste conclure qu'en fait, que l'entreprise, en effet, c'est pas seulement ce que vous vendez ou si c'est un service que vous vendez ou du matériel, mais c'est vraiment l'investissement doit être dans vos travailleurs si vous voulez qu'elle évolue de manière positive.
On va mettre ça, donc, les liens, les différentes références sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce sur être bien au travail par rapport à que l'employeur s'en charge. En fait, merci beaucoup, Catherine, pour cette chronique.
Merci, Yvon.
Au revoir.
Au revoir, tout le monde.
J'ai rien à faire dans le caveau de l'intendance. Tu sais, je repars à zéro. Ouais, tu penses, j'enrage de ne plus dire adieu.
Jamais je ne le pense.
Je rêve d'annuler tes adieux. Si je m'en vais tout en haut, mais pour y voir qui. Gardez seulement les cœurs de pierre pour la cadence. À mesure de faire la fière, je me suis balance. Mon truc à moi, c'est tenir tête. Je suis faite pour ça. J'aime pas trop goûter la défaite, gâcher la fête, marcher en pas.
De retour au micro, à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale.
Nous poursuivons au micro avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale.
Oui, et on peut voir au fil de ces articles qu'il y a des impacts qui sont positifs.
Plus même que négatifs, on croirait pas ça, mais il y a quand même beaucoup d'impacts positifs.
Oui, il y a du positif, mais il y en a que peut-être que je ferai une autre espresso là-dessus à un moment donné. Il y a plusieurs jeux violents qui inquiètent les parents.
Ouais.
Mais pour aujourd'hui, je vous parle des impacts surtout positifs. Et selon un deuxième article maintenant que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle « Les jeux vidéo seraient bons pour la santé mentale selon une étude ». Et j'ai pris ça sur le site futurascience.com. Alors, on nous dit dans cet article, si les jeux vidéo sont souvent pointés du doigt pour leurs effets néfastes sur la santé, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université d'Oxford révèle qu'ils pourraient finalement avoir un impact positif sur la santé mentale. Des résultats qui arrivent à point nommé alors que de nombreux pays à travers le monde avaient fait le choix de reconfiner leur population pour tenter de limiter la propagation de la COVID-19. Alors, il s'agit de la toute première étude du genre à s'intéresser non pas tant au temps de jeu déclaré par les joueurs eux-mêmes, mais au temps de jeu réel fourni par deux géants de l'industrie, soit Electronic Arts et Nintendo. Les chercheurs ont analysé les comportements des gamers pour deux jeux vidéo particulièrement appréciés dans le monde, soit le jeu Plants versus Zombie, la bataille de Neighborville. Moi, c'est un jeu que je ne connais pas
non,
du tout.
Non, je ne connais pas non plus.
Et un autre jeu qui s'appelle Animal Crossing New Horizons.
Je ne connais pas non plus.
Moi non plus.
Ça va bien.
Moi non plus. Puis, on a demandé à 3274 joueurs de répondre à une enquête. Et contre toute attente, les scientifiques ont constaté que les jeux vidéo étaient loin d'être néfastes pour la santé, bien au contraire. Ils auraient même un impact positif sur la santé mentale des joueurs et seraient bénéfiques pour leur bien-être. Si le temps passé à jouer était synonyme de bien-être, c'est davantage encore les expériences vécues pendant le jeu qui étaient associées à un impact positif sur la santé mentale. Par ailleurs, les chercheurs ont remarqué que le lien social noué avec autrui par le jeu était également associé à une notion de bien-être. Le professeur Andrew Przybylski, principal auteur de l'étude, nous dit... Demande-moi pas de répéter le nom, là.
Non, c'est ça. Je l'ai bien dit une première fois, on va s'essayer une deuxième.
Alors, le docteur Andrew, je vais l'appeler comme ça,
ouais,
nous dit « Nos résultats montrent que les jeux vidéo ne sont pas forcément mauvais pour la santé. Il existe d'autres facteurs psychologiques qui ont un effet significatif sur le bien-être d'une personne. En fait, le jeu peut être une activité qui a un impact positif sur la santé mentale des gens et réglementer les jeux vidéo pourrait enlever ses bénéfices aux joueurs. »
Ah, OK.
Notons malgré tout des différences significatives en fonction des joueurs. Les chercheurs indiquent que ceux qui ressentent un réel plaisir à jouer ont tendance à voir leur bien-être accru, ce qui n'est pas le cas des joueurs qui se tournent vers les jeux vidéo pour fuir un monde réel qui ne les satisfait pas.
Comme tu disais tantôt, effectivement, il faut éviter le, oui, que ça devienne comme un
refuge.
Bon, un refuge, puis tu sais, quelque chose qui, c'est ça, qui peut enlever un stress. Là, ça,
oui.
C'est pas...
oui. Et selon un troisième article qui s'appelle « Alzheimer, établir un diagnostic précoce grâce à un jeu vidéo », imagine-toi. Ah, okay.
Ben, ça demande la concentration quand même. Là. Tu sais, ça fait travailler la tête. Là, veux, veux pas,
ben, sûrement. Mais on nous dit dans cet article que les jeux vidéo peuvent aider à déceler l'Alzheimer chez une personne qui est non diagnostiqué encore, okay, avec, ouais, cette maladie. J'ai pris ça sur le site futurascience.com. Pour détecter les symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer, des scientifiques de l'Université d'East Anglia, de l'Université de Londres et du CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique en France, ont développé un jeu vidéo spécialement conçu à cette fin. La maladie d'Alzheimer attaque progressivement les neurones en provoquant tout d'abord des troubles de la mémoire. Le jeu Sea Hero Quest, encore un que je ne connais pas, mais c'est un jeu vidéo d'orientation spatiale avec lequel il est possible de jouer depuis son téléphone portable. Il est accessible aussi sur tablette et en réalité virtuelle. Il est disponible depuis 2016 et il a permis de collecter, depuis son lancement, des données, mais également d'évaluer le niveau de faculté à se repérer dans l'espace de plus de 4 millions de joueurs à travers le monde. Encore fallait-il être certain que la réussite des joueurs dépendait bien de leur capacité à s'orienter dans l'espace et non de leur habileté à utiliser un téléphone portable ou de leur habitude à jouer aux jeux vidéo. Pour confirmer l'hypothèse de départ des chercheurs, les performances d'orientation des volontaires, tout âge et sexe confondus, ont été comparées dans le monde réel et dans le monde virtuel. Une étude publiée dans Plus One, qui est un journal scientifique, a confirmé que les performances d'orientation virtuelle et dans le monde réel sont fortement liées. Publiée dans la revue PNAS, qui est un autre journal scientifique, cette nouvelle étude a analysé l'efficacité de ce jeu vidéo pour aider à établir un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, avant même l'apparition des premiers signes cliniques. M. Antoine Coutreau, qui est chercheur au Centre national de la recherche scientifique, soit encore le CNRS, et co-auteur de l'étude, nous dit « Grâce à la littérature scientifique, nous savons que l'orientation spatiale est l'un des facteurs précoces de la maladie d'Alzheimer avant la perte de mémoire. »
Merci beaucoup pour ce sujet. On va mettre le lien, de toute façon, oui, de l'article que les gens qui voudraient aller le voir sur notre site antenne.qc.ca, oui, dans la section mentionnée à Folie douce. Merci Pierre. Donc, l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale.
C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie douce radio.
Quelques mots, Pierre, pour faire la nomenclature des chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission.
Oui.
On a entendu la première, Que tous dansent.
Oui, de Noé Préchoff.
Oui, on a entendu Partout.
De Roxane Bruno.
Dans la deuxième demi-heure de l'émission, Presque beau.
De Fishback.
Et à l'instant, Aidé.
De Bolduc, Tout croche.
Merci beaucoup pour ce choix musical et ton travail en régie.
Bienvenue, mon cher.
Et aussi, merci pour ton sujet à tes espressos où tu nous as parlé de l'impact des jeux vidéo sur la santé mentale.
Mm-hmm.
Merci beaucoup à notre invitée Diane Harvey qui nous a parlé de l'AQRP, et de tous ses projets. Notre collaboratrice Catherine Sassin était aussi des nôtres. Son sujet, être bien au travail et aussi l'importance de l'employeur pour assurer un bien-être au travail. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.